gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
La causerie, c'est le 27 décembre aujourd'hui et tu es à l'écoute de ton émission préférée. Voilà, disons-le clairement. Et ce soir, autour de la table, tu auras Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab qui a fait l'ouverture.
Bon, une ouverture tout en finesse.
C'est ça.
Un petit ego trip de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, on va rappeler quand même aux auditrices et auditeurs que normalement à la causerie on est 6 et que donc du coup il en manque 3. Alors on va saluer les 3 qui manquent, donc salut à vous Nadège, Jonathan et Emma. Voilà,
c'est ça.
Qui n'êtes pas là ce soir. Mais on peut le comprendre parce que c'est la crise de foi et crise de foi, on a du mal à venir faire une émission de radio.
Effectivement.
Sinon pour nous joindre, il y a un mail et le mail
c'est lacauseriecanu@gmail.com.
Voilà, et sinon tu peux aller sur le blog parce
c'est
que...
ça, il y a des blogs où il y a tous les podcasts, enfin, c'est vraiment ouais. Un truc de dingue hein. C'est pop comme partout ailleurs en fait. et le blog en fait vous le retrouvez à l'adresse blogs au pluriel donc .radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, et sinon on a aussi un espace Facebook, mais c'est quand même mieux de nous contacter via le mail ou le blog parce que c'est ce qu'on a le plus de facilité à utiliser. Voilà.
C'est ça.
Eh ben, on va commencer, démarrer tout de suite la causerie. Alors Jean-Yves, tu vas nous commencer par nous lire un poème qui s'appelle, et j'ai très mal écrit, hein, Le Remède.
C'est ça. Alors le poème, il est traduit de l'arabe par le poète marocain Abdelatif Labi, extrait du recueil Instructions internes qui a été publié en 2007. Le Remède donc. Tu démentiras toutes les informations, les revues de presse, les analyses des spécialistes en dernier cri de la mode. Tu n'abuseras pas du sommeil et du téléphone portable. Tu t'exerceras un peu, à la mort. Tu te débarrasseras de toutes les photos que tu as gardées de ton enfance, de ton adolescence, de ta pauvreté, de ton ex-aimé, des comptes de ta grand-mère et de tes virées nocturnes. Pour t'attaquer à certaines prétendues vertus, tu utiliseras de l'eau chaude pour ta douche et tu laveras les pieds chaque fois que tu ôteras tes chaussettes. Tu feras tienne les expériences de ceux qui viendront après toi. Tu écriras ton nom à l'envers sur le miroir. Tu mangeras avec la main droite et laisseras le reste à ceux qui méritent plus que toi, ta bouche trempée dans le pétrole.
Eh ben merci.
Voilà.
On reviendra dans l'émission.
C'est ça.
Là-dessus.
Et on continue. C'était donc Fab, tu continues avec un truc...
un truc dont on entend beaucoup parler. Je vais juste faire une petite récapitulatif de l'actualité actuelle. Donc vous savez qu'on a un président qui est donc un président élu de gauche.
En tout cas sous cette étiquette.
Enfin, sous cette étiquette-là, un socialiste. Donc on va être très clair, ça n'a pas une grande importance pour ce que je vais dire après. Ah si, en fait, ça en a. C'est là que c'est important. Donc en fait, ce président hein, qui était élu en disant que son ennemi était la finance, il vient de nous apprendre qu'en fait, ses ennemis, c'était les binationaux. Alors, on n'a pas trop compris le lien avec la finance, mais en tout cas, en ce moment, il est à fond pour mettre dans la Constitution française le fait de pouvoir déchoir de sa nationalité française quelqu'un qui serait binational s'il commettait un acte en atteinte envers l'État. Alors bien sûr, aujourd'hui, ils nous disent cet acte en atteinte envers l'État, c'est bien sûr les actes terroristes. Bon, le petit souci, c'est que la formulation telle qu'elle est faite, elle est un petit peu très large, hein, parce que qu'est-ce qu'une atteinte envers l'État ? C'est un peu flou et compliqué. Alors on va être très clair, du moins pour moi, mais je pense pour tous les membres de la causerie, la déchéance de nationalité, c'est une énorme connerie, parce que je vois pas pourquoi un gars qui a envie de se faire péter au nom de son dieu ou je ne sais quoi, va se dire « Ah non, là j'y vais pas, parce que si je meurs, on va m'enlever ma nationalité. » Vous imaginez le truc, c'est un truc surréaliste quand même.
Ah bah je pense que ça en fera reculer les dents, hein.
Ah ouais, bah, tu sais dire, merde, après j'aurai plus ma carte et tout. Donc déjà, c'est ridicule, parce que ça résout rien, c'est débile. Voilà. Alors bien sûr, ils surfent en disant « Oui, mais ça pourrait s'appliquer aux gens qui potentiellement auraient voulu commettre un attentat. » Sauf qu'en fait, ça ne marche pas, parce que la justice en France, c'est une justice, heureusement, qui reste une justice bourgeoise, qui reste beaucoup à interroger, mais qui a comme principe de devoir prouver que vous êtes coupable. Donc, on ne peut pas prouver que vous alliez faire un attentat. On peut prouver que vous aviez l'envie de le faire, ça oui. Par contre, que vous soyez allé au bout, rien ne le prouvera jamais. Donc, rien ne pourra permettre, en théorie, d'appliquer une déchéance de nationalité sur une simple supputation. Mmh. En fait, c'est un truc très cosmétique. Mais là où ça pose problème, c'est que c'est cosmétique pour faire plaisir avant tout aux réac. Et c'est là que c'est problématique, parce que c'est quand même quelque chose que réclame depuis des années le Front National, mais pas que lui, les identitaires aussi, par exemple. C'est aussi ce que réclame Christine Boutin depuis des années, et pas mal de gens du parti des Républicains, ça s'appelle comme ça maintenant.
Anciennement UMP.
Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'eux, ils veulent aller plus loin, c'est qu'ils veulent carrément sortir de l'idée du droit du sol. Alors je vais juste rappeler quand même que le droit du sol, c'est quand même une idée qui, à gauche en tout cas, et chez les progressistes, a toujours servi à dire que toute personne née en France doit être protégée par la France. C'est le principe en fait de dire, à partir du moment où quelqu'un arrive sur le territoire français et un enfant naît, eh ben l'enfant il devient automatiquement un enfant de la République. Alors ça peut paraître très grandiloquent, mais il faut rappeler que ça a permis notamment à une époque, à des certaines époques sombres de l'histoire, à des gens de venir se réfugier en France et d'être certains, en fait, de pouvoir que leurs enfants soient protégés. Voilà. Je rappelle, par exemple, qu'en Allemagne, pendant très longtemps, il fallait 3 générations avant de pouvoir devenir allemand. Et c'était la grande différence entre l'Allemagne et la France depuis des centaines d'années, c'est que la France estime que ses valeurs, elles sont des valeurs universelles, donc elles s'appliquent à tout le monde, à partir du moment où vous êtes né en France. Alors ça n'a pas toujours été vrai, on va rappeler que dans les territoires des colonies, ex-colonies françaises, évidemment, ça ne marchait pas, parce que sinon il y aurait plein de gens qui seraient aujourd'hui français, ce serait peut-être pas plus mal pour eux, ou peut-être mal pour eux, j'en sais rien, c'est pas le problème, on va pas réécrire l'histoire, sauf que la problématique était qu'on disait qu'il y avait les indigènes et les vrais français. Et en fait, on revient à ça. C'est-à-dire que c'est ça tout le problème. C'est qu'en fait, derrière cette idée de déchoir la binationalité, donc d'enlever la nationalité française à des gens, c'est de faire 2 catégories de Français. Il y aurait les vrais Français, les bons, ceux qui sont très 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 français, on ne sait pas trop pourquoi, il va falloir avoir des grilles de lecture pour pouvoir savoir ce qui fait un Français. Et puis, il y aurait les autres qui ne sont pas vraiment Français, à qui on pourrait renlever la nationalité. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on revient en fait à des notions qui datent de l'indigénat. Et ça, c'est quand même un petit peu grave, et même très très grave, parce que c'est quand même des choses qu'on n'espérait pas entendre dans la bouche d'un président socialiste. En fait, si. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ce président socialiste, contrairement à ce que plein de gens nous disent, c'est « oui, il revient à Pétain ». Alors, pas du tout. Il revient à François Mitterrand. Parce que François Mitterrand, il était préfet d'Algérie. Et François Mitterrand, il était pour l'indigénat. Et il a fait tout pour que l'indigénat perdure. Et il a condamné à mort tous les gens qui allaient à l'encontre de l'indigénat. Alors, soit en demandant, ce qui était logique quand même, la libération du pays, soit y compris des Français qui, eux, demandaient à ce que soient appliquées les mêmes règles pour les personnes, pour quelle que soit la personne sur le territoire dit français à l'époque, du fait que c'était une colonie. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de remonter à Pétain. Mmh. C'est une vieille tradition socialiste qui est bien ancrée dans le Parti Socialiste, contrairement à ce que les gens croient. Et on ne voit juste aujourd'hui quelqu'un qui nous dit, sous couvert qu'on serait en guerre, et du coup il faut mettre ça dans la Constitution. Qu'est-ce que ça change ? Je vais juste finir là-dessus. La destitution de nationalité existe déjà aujourd'hui dans la loi française. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui permet de destituer des gens sur, après condamnation et après avis du Conseil d'État. Donc vous pouvez tout à fait enlever la nationalité française à une personne qui est binationale aujourd'hui avec les lois qui existent. En fait, le mettre dans la Constitution, c'est créer un précédent. Parce que la Constitution, c'est prévu pour durer. C'est pas prévu pour être temporaire, c'est pas une loi. Et on nous dit, on doit faire ça parce qu'on est en état de guerre. Ça veut dire quoi en fait? Parce que c'était la phrase de Manuel Valls de tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, il compte qu'on soit en état de guerre pendant combien de siècles? Parce qu'une constitution, en théorie, c'est pas censé changer tous les 2 ans, quoi. Donc, on voit bien quand même qu'on rentre dans une idéologie très malsaine et qui est en fait une rupture claire d'une partie de la gauche et d'une grande partie de la droite, mais ça n'en était pas surpris, et de l'extrême droite, avec ce qu'on a appelé les Lumières. C'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, la France peut être une terre d'accueil et de protection. Voilà, on est très clairement là dans la continuité du sarkozysme, du chiracisme, tout ça, et du mitterrandisme. Et en fait, on est très clairement dans l'idée que la France doit devenir une forteresse. Voilà, c'est ça moi qui me dégoûte.
Ouais, et puis ce qui est très drôle quand même, enfin c'est vachement désigner un bouc émissaire quoi. Oui. C'est la binationalité qui enfin je sais pas comment dire, en sachant que
Du coup, je suis taquin, je suis allé voir pour les derniers attentats, je me suis dit combien il y avait de binationaux, parce que quand même c'était un petit peu intéressant de se dire alors ça va être super efficace a priori, parce que on en aurait eu 3 qui auraient eu peur. Voilà, et je parle des attentats de janvier et des attentats de novembre, donc 3 à 4 qui auraient eu peur en se disant oula, une fois que j'aurais fait mon truc, on va m'enlever ma nationalité. Donc on voit bien que ça ne sert à rien, c'est purement cosmétique, mais c'est donner des gages.
C'est ça, mais c'est ça.
À la frange la plus pourrie et la plus dégueulasse de la pensée politique qu'il y a en France aujourd'hui, et ceci sous couvert, encore une fois, d'un état de guerre. Or moi je le redis, l'état de guerre c'est pas censé durer. Donc quand on commence à dire qu'on rentre dans une constitution, la notion d'état de guerre, ça veut dire qu'on a envie qu'elle dure, et ça c'est plutôt inquiétant.
Effectivement. On passe à la musique ?
Oui.
Allons.
Et non, tu n'es pas dans une attraction d'Europa Park, tu es bien dans la causerie. Il est entre 22 et 23 heures le dimanche. Et oui, c'était un titre d'Opération of the Sun qui nous faisait donc un électro-poutz. Voilà. Et donc, on va continuer. Donc, Jean-Yves, tu vas nous lire un deuxième poème qui s'intitule Amnestie.
Au-dessus de la ligne du silence, les moustiques sont très agaçants. On dirait qu'ils s'adonnent au trafic du sommeil dans ta cellule de prisonnier. Comme si ta façon de dormir était une violation flagrante des accords de Genève et autres traités internationaux. Retiens-toi, tu ne peux pas pisser ici. Danse un peu, sautille et trouble la gravité des funérailles. Gare, le café aussi est un diurétique. Je suis debout, tout nu, chaque jour, sans jugement dernier, sans que personne ne souffle dans le corps, car je suis d'avance ressuscité. Je suis l'expérience de l'enfer sur la planète Terre. La Terre, cet enfer apprêté pour les réfugiés. Et donc, ces poèmes en fait, que je vous ai lus, en fait, c'est des poèmes de Fayyad Ashraf, qui est un poète palestinien. Vous en avez peut-être entendu parler, certainement même. Alors, je voulais un peu resituer quand même tout ce qui lui arrive à ce poète palestinien. Il est né dans les années 80 à Gaza et il vit depuis quelques années en Arabie Saoudite. Il est poète, il est artiste et il a représenté l'Arabie Saoudite à la Biennale de Venise en 2013. Et si vous en avez entendu parler ces derniers jours, c'est parce qu'il a été condamné à mort pour apostasie par des juges en Arabie Saoudite le 17 novembre 2015.
Notamment pour le poème Amnestie, dans lequel il parle du fameux corps qui doit ressusciter les morts à l'appel d'Allah, et où il dit qu'il n'a pas besoin d'un corps, qu'il est déjà ressuscité.
C'est ça. Et alors pour résumer un petit peu, parce que enfin, toute cette histoire-là, c'est pas juste on l'a arrêté, on l'a directement condamné à mort, c'est bien plus complexe, et moi j'y retrouve aussi des similitudes avec sûrement plein de gens à qui ça arrive. Mais aussi, alors, une personne dont j'avais déjà parlé ici, c'est Walid al-Husseini, qui avait été arrêté en Palestine et qui a été aussi accusé d'apostasie. Il s'en est mieux tiré. Pour revenir à Fayyad Ashraf, en 2013, il est arrêté sur soupçon de blasphème. Vous savez, ce truc que certains aimeraient bien faire sauter, même en France.
Remettre dans la loi.
Le droit du blasphème. Bref, mais il est relâché, lui, le lendemain, en fait. Donc voilà, je dis tout va bien. Mais en fait, en 2014, en janvier pour être très exact, il est à nouveau arrêté. Et il lui est notamment reproché d'avoir publié un recueil de poèmes en 2007, Instruction interne, dont les poèmes dont je vous ai lu, dont ils sont extraits, et qui contiendrait donc des poèmes athées. Vous imaginez l'horreur ? Et sur la foi d'un seul témoignage, il est aussi accusé d'avoir tenu des propos athée dans un café d'Aba, et on lui reproche de prôner des idées destructrices et de corrompre la jeunesse. Parce que quand on tue Dieu, effectivement, on risque de la réveiller, la jeunesse. Et donc, il aurait aussi enfreint la loi sur, attention, sur la cybercriminalité, car on a trouvé dans son téléphone des photos de femmes qui en fait étaient ses amis. Et donc, en jugement, en première instance, le 26 mai, le tribunal d'Aba l'a condamné à 4 ans de prison et 800 coups de fouet. Une broutille. Mais le tribunal ne retient pas l'accusation d'apostasie, dont il se défend, lui. Il a même signé un truc en disant que pas du tout, il est croyant, etc. Et en fait, la cour d'appel, considérant que le repentir ne suffit pas, et que le pardon ne peut être accordé que par Dieu.
Parce que c'est, on rappelle que c'est le ministère public qui a fait appel, c'est-à-dire là-bas c'est une monarchie, donc ouais. C'est l'attaché du roi, c'est ça.
Et donc il décide de le renvoyer devant le tribunal général d'Aba. Et celui-ci le condamne donc à mort par décapitation le 17 novembre dernier.
Il n'y avait pas un avocat
Alors pour avoir un avocat, il faut que tu aies ta carte d'identité. Qu'on lui a retiré en fait dès qu'on l'a arrêté. Donc il n'a pas pu s'entretenir avec un avocat et il avait jusqu'au 17 décembre pour faire appel.
Mais là aussi, il lui fallait sa carte.
Ouais.
Donc du coup,
j'ai lu quelques infos, il aurait eu accès à un avocat, mais alors enfin. comment dire, j'ai l'impression que tu peux venir avec n'importe quel avocat, de toute façon c'est cloué.
Ça, non, c'est... Bah, ça fait clair, ouais.
Alors après, je voulais revenir un petit peu, enfin, et aussi rappeler qu'il y a une journée en fait qui sera internationale de solidarité afin d'exiger vie sauve et liberté pour Fayad Ashraf, qui est prévue normalement le 14 janvier. Et je voulais en revenir parce que j'ai lu deux trois trucs, enfin. Parce qu'il y a eu un printemps des poètes, enfin il y a des poètes en tout cas qui viennent du monde arabe en fait, qui se sont réunis, qui ont fait une soirée de soutien justement à Fayad Ashraf. Et j'ai retrouvé un truc, c'est Ouda Zekri, qui est une poétesse tunisienne et qui vit en France depuis 18 ans et qui milite pour la liberté de conscience. Hein. Elle appelle à ce que la liberté de conscience soit inscrite et garantie pour toutes dans les constitutions du monde. La liberté de conscience, on rappelle encore une fois, hein, c'est de pouvoir croire, mais c'est surtout aussi pouvoir pas croire.
C'est ce qu'on appelle vulgairement la laïcité.
C'est en fait. Ça, en fait. Même si ça fait vomir à des gens. Et ce mot-là. Et donc, elle a lancé en fait une pétition pour appeler à sa libération et appeler à une mobilisation politique en sa faveur. J'espère vraiment que ce gars-là, on arrivera à le tirer de la mort. Ça serait vraiment bien. Et en fait, elle rappelle, elle, que Ashraf, donc, il a déjà soutenu en Tunisie deux jeunes condamnés pour athéisme. C'était Jaber Mejri et Gadzi Beji. C'était en 2012. Et certains de ses défenseurs aussi, donc, à Fayad, ils pensent en fait qu'il a été puni parce que, en fait, il a publié un truc qui montre la police religieuse en train de lyncher un homme en fait en public. Et on pense que bon, ça fait quand même sûrement beaucoup de choses qui pourraient quand même déranger un pouvoir en place grâce à la violence, hein, appuyé sur les religions, enfin sur la religion. Et donc voilà. Et en fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est parce que je les ai trouvés que ben on pouvait pas parler d'un et pas parler des autres. C'est d'ailleurs c'est au moment aussi de ce printemps des poètes en fait que certains ont dit que Fayad Ashraf en fait c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, ou en tout cas il faudrait pas qu'il devienne l'arbre qui cache la forêt.
Il le souhaite pas lui-même d'ailleurs.
Non, c'est certain. Et donc voilà, et en fait je me suis dit bah tiens, je vais vous parler de deux trois personnes. Qui s'appelle par exemple Walid Abu Alker, qui est avocat saoudien et beau-frère de Raif Badawi. Ça vous dit quelque chose? Et qui en fait purge une peine de 15 ans de prison pour atteinte à la réputation de l'État saoudien et de désobéissance.
C'est donc l'autre a été déjà fouetté et c'est purge ça. Une peine pour apostasie.
C'est ça.
Et il vient d'avoir le prix Sakharov.
C'est ça. Il y a aussi Ali Al-Nimr, Dawood Hussein Al-Maroun et Abdullah Hassan Al-Zaher. C'est des chiites condamnés à mort pour avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales alors qu'ils étaient mineurs. Donc quand on manifeste dans certains pays, on a le droit à la mort.
Et quand on est mineur, on peut être condamné à mort en Arabie Saoudite.
Abdul Karsim Al-Koder, Abdullah Al-Hamid et Mohamed Al-Khatani, tous trois fondateurs de l'Association saoudienne des droits civiques et politiques, qui ont été condamnés pour avoir réclamé des réformes politiques et dans le domaine des droits humains.
Et tous condamnés à mort.
Voilà. Et ben voilà, enfin c'est juste que, ben encore une fois, il faudrait qu'on arrête de se regarder le nombril et que des progressistes, il y en a de partout le monde, et que je pense qu'il faudrait justement arriver à créer des ponts comme ça, et de soutien et de résistance à travers le monde, et il y en a déjà, et qu'il ne faut pas les laisser crever, quoi. Donc voilà.
Et justement, enfin moi je fais une petite parenthèse pour rappeler. J'ai perdu mes notes. Je reprends mes notes, ça va bien se passer. Oui, en fait, je voudrais rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui après la Chine le pays qui exécute le plus de monde. Si vous écoutez le Canu Info du jeudi, ils ont une chronique consacrée aux barbares, ce qu'ils appellent les pays barbares. Aujourd'hui, c'est à ceux qui continuent la peine de mort. Et aujourd'hui, on estime. Parce que c'est très compliqué en Arabie Saoudite de savoir. Ces exécutions sont des fois faites sur des parkings planqués, voilà. On estime aujourd'hui qu'ils atteindront cette année plus de 480 personnes tuées, assassinées par l'État d'Arabie Saoudite. Donc, ce qui est impressionnant, c'est de voir que ça fait plus d'une personne par jour. On en est là quand même. Et que la plupart sont condamnés généralement pour des faits de type apostasie, manquement à la religion, voilà. Et que c'est pas anodin, quoi. C'est parce que l'Arabie Saoudite dit oui, mais on peut faire ce qu'on veut parce que chez nous, si on n'a pas envie que les voleurs y revolent, on a le droit de les condamner à mort. Non, mais en fait, sauf que le problème, c'est que généralement, les condamnés à mort sont majoritairement des gens qui essayent de lutter contre la dictature qu'est le système saoudien aujourd'hui.
C'est voilà. Ça.
Des Saouds.
C'est ça. Voilà. Et puis ben, se rappeler par le même biais que ben, des libres penseurs et des athées se font assassiner régulièrement, et que penser que l'athéisme ne serait comme écouter du rock, juste une appréciation de la vie, et ben, qu'elle coûte la vie à des gens, et qu'il ne faudrait pas l'oublier en fait, de notre petite position de favori et de privilégié, en tout cas en France, et que ben, ouais, penser, en tout cas, oui, penser que Dieu n'existe pas vaut la mort dans beaucoup d'endroits en fait. Et attention, aux États-Unis, on a le droit de pas travailler. Enfin, on a le droit. On t'interdit de travailler quand t'es athée, en fait.
On peut, dans certains États, dans certains États, refuser d'être embauché.
C'est ça.
Parce que voilà, on va juste rappeler quelque chose quand même qui est important. Il y a une association qu'on peut pas traiter d'ultra-gauchiste, qui est Human Rights Watch, qui a quand même fait un rapport qui expliquait que la première cause de mal-être en tant que pour ce que vous pensez dans le monde aujourd'hui, c'est le fait d'être athée ou libre penseur. C'est-à-dire que c'est la première, avant toute autre oppression religieuse ou autre, c'est la première cause dans le monde aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est un peu un souci. J'ai à titre personnel l'impression que ça arrange beaucoup de gens, et notamment les religions, qu'on ne parle pas de cette oppression-là.
C'est ça.
Qui est au nom de Dieu, parce que c'est plein de dieux différents.
Oh oui.
Voilà. Et voilà. Et je voulais juste finir sur ce que je l'ai lu tout à l'heure. Il y a une jeune femme en Inde qui vient d'être condamnée pour insulte à l'hindouisme. Donc vous voyez comme quoi c'est. Voilà. Et elle est condamnée simplement. Alors je vais vous raconter le truc parce que je trouve ça juste surréaliste. En fait, elle traversait son village. Deux personnes sont sorties d'un temple hindou, donc c'était à la sortie d'une prière, j'ai pas trop compris, il y avait le nom de la prière, mais je suis incapable de la redonner de tête. Et en fait, elle a contourné les deux hommes, parce qu'ils commençaient un petit peu à la dragouiller, comme ils disent eux, mais en fait, plutôt à l'agresser, je pense, clairement. Et en fait, elle est chrétienne, et elle a marché sur les deux première marche du temple hindou. Et donc ça lui vaut aujourd'hui d'être condamné. Alors a priori c'est pour l'instant à 14 ans de prison pour insulte envers l'hindouisme. Voilà. Simplement parce qu'elle est chrétienne et qu'elle a marché sur deux marches d'un temple hindou. Je rappellerai qu'en Inde, les temples sont visités par plein de touristes et que là par contre bizarrement ça pose pas de problème.
Mm-hmm. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va peut-être s'écouter un peu de musique.
S'adresse à tous les tristes sires, accros du net, lâches et racistes, planqués derrière leur ordi. Ils sont comme des serpents, ils pissent sur mes sentiments. Incroyable con, et dans mon cou, ils plantent leurs dents. De quoi devenir paranoïde. Pauvres nazes dans la haine, font chier bourrés sous stéroïdes, arrogants. Ils se la jouent testostérone, va falloir lâcher l'affaire. Le membre caché du stade, ils sont jaloux. Ils observent leurs voisins, ont pas envie de le voir heureux. Cette seule vision les rend zinzin, ça les renvoie à leur triste réalité. Vie de merde, taf de merde, du cervelas dans le cervelet. Ils ont du flambi dans le slop, bande de salopes. Faut qu'ils restent tranquilles ou je les découpe comme une escalope.
Mais vite, c'est pas n'importe quoi.
Ça fout le feu, fait le fou.
Ça t'handicape quand tu l'as pas.
C'est une construction mathématique.
Hey,
un truc pataphysique qui pique comme un aspic. Stupéfix, c'est pas n'importe quoi.
Ça fout le feu.
C'est une construction mathématique.
Haters kill.
Un truc pataphysique qui pique comme un aspic.
Gros, truc, craque, truc, il faut une trempe. Accro du micro, mon style en cru de fou des crampes. Ce truc, je le crie comme une truie contre rien. Mes textes pourris pour faire triper les gamins. Ma force était la farce, maintenant gaffe si ça se corse. Je suis fort comme un arbre, élastique et mon écorce. La course au fric, j'en ai rien à carrer. Et je gupe mes frères barouilles sur mon troisième CD. Encore un petit effort et tu pourras m'appeler Patrick. Moi je suis King Q, celui qui crie fort. Fasciné par la moisissure.
Stupéfique, c'est pas n'importe quoi.
Ça fout le feu, fait le fou.
Ça t'handicape quand tu l'as pas.
C'est une construction mathématique. Un truc pataphysique qui pique comme un aspic. Stupéfique, c'est pas n'importe quoi.
Modo, 30 kilos, 130 kilos de viande de volée de cheese dans mon ventre, pèse lourd comme un sac à dos. J'suis de l'époque du Wu, Ice Cube, pas des rigolos. J'digère le bon son, Big Duke, pas calo zéro. Parasé, gros os.
et mon encéphalo. Pas d'allô maman bobo, j'ai de problème d'ego, sadomodo et réglo. Me sens lourd, mentalo, sueur qui coule, slow tempo. Pas d'allume même s'il fait chaud, toujours classe en pédalo.
Stupéflip, c'est pas n'importe quoi.
Ça fout le feu, fait le fou.
Ça t'handicape quand tu l'as pas.
C'est une construction mathématique.
Haters kill.
Un truc pas ta physique.
Okay,
comme un aspic.
Stupéflip,
c'est pas n'importe quoi.
Ça fout le feu, fait le fou.
Ça t'handicape quand tu l'as pas.
C'est une construction mathématique.
Haters kill.
Un truc pas ta physique. Qui pique comme un aspic.
Pour plus de raisons, à du pelourant, de l'un au moins, le service. On y m'a aidé. Au patron de la menuiserie, de l'main, ce livre, ça s'en rapanerie vive.
Et on est de retour dans la causerie, toujours sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org, hein, allons-y. Ouais. Et on vient de s'écouter Haters Kill A de Stupéflip. Alors les haters, c'est ceux qui passent leur vie sur internet parce qu'ils s'emmerdent et qu'ils ont que de la haine à revendre. Alors spécial, petite dédicace à...
À une pustule.
À une pustule. Voilà. Eh ben Fab, tu voulais nous causer d'un truc trop sympa aussi. Mange du sucre et soigne-toi.
C'est ça un peu. Alors, sauf si t'es diabétique. Alors
effectivement, tu peux mourir.
Non, je voulais parler de quelque chose. Alors, il y a déjà eu plein d'études qui ont été faites sur l'homéopathie. Et en fait, là, il y a les Australiens qui sont en train de s'interroger. Alors c'est notamment les... Comment on appelle ça, les sociétés, on va dire, d'assurance australienne, qui s'interrogeaient sur la notion de est-ce qu'on rembourse ou pas l'homéopathie, est-ce que oui ou non ça marche. Donc en fait, ils ont demandé à deux universités de faire deux méta-études. Alors, une méta-étude, c'est pas compliqué, ça a l'air comme ça complexe quand on le dit, c'est simplement vous reprenez toutes les études qui ont été faites sur un sujet, ou du moins un maximum d'études qui ont été faites dans au moins quatre pays. Alors l'idée, c'est de ne pas reprendre que ce qui est dans votre pays, et vous regardez si oui ou non on arrive à une conclusion, genre ça sert à quelque chose. Vous voyez ? Alors il y a une méta-étude récente qui a été faite, par exemple, sur la vaccination contre la poliomyélite. Qui elle disait bah oui quand là où on peut pas se vacciner effectivement la polio bah continue à tuer machin et tout et voilà c'est un exemple par exemple de méta-étude qui existait. Et là donc ils ont pris 225 études sur l'homéopathie. Et ces chercheurs, donc, qui ont fait... Alors, quand je dis ils ont demandé deux méta-études, c'est simplement qu'en fait, on fait les méta-études en double aveugle. Il y a deux équipes qui reprennent les mêmes données, mais qui sont d'accord. De deux universités différentes. Vous voyez, c'est, l'idée, ouais, c'est okay. Qu'ils ne se parlent pas. Enfin, vraiment, l'idée, c'est vraiment... chacun fait le truc
oui,
dans
pas
son
de croisement
coin.
Entre les deux
et on
trucs.
Croise qu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'on se voit à la fin et on regarde si oui ou non, on arrive aux mêmes conclusions. C'est pratique, c'est scientifique surtout, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Alors, dans la méta-étude, ils ont réussi à prouver une chose, bah c'est que le sucre, c'est bon pour la santé. Donc ça, ils l'ont bien prouvé.
Sauf quand t'es diabétique, on le redit
quand
même.
Sauf quand t'es diabétique, mais en fait, l'homéopathie n'a aucun effet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver d'effet mesurable, concret, de l'homéopathie. C'est important parce qu'en fait, vas-y.
Non, vas-y, termine.
Non, c'est important parce qu'en fait, on dit, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un effet ? Vous voyez, c'est avoir un effet, ça veut dire que vous supprimez l'effet placebo et vous regardez s'il y a un effet induit. C'est-à-dire que, ben, on va prendre un exemple très concret. Vous mangez aujourd'hui une capsule de cyanure, vous mourrez. C'est un effet induit du cyanure qui est connu. Le cyanure, c'est mortel. Non, mais je prends cet exemple exprès. Ouais. Voilà. Vous avez mal à la tête, vous prenez un doliprane. Dans 80% des cas, parce qu'il y a 20% des gens chez qui le paracétamol ne fait rien, vous avez plus mal à la tête ou moins mal à la tête. C'est-à-dire qu'il y a un effet direct entre la prise du médicament et, quelques temps après, une sensation de mieux-être. Vous voyez, c'est le truc. Voilà. Et c'est pas, voilà. Mais on sait que même dans un médicament, il y a une part de placebo. C'est-à-dire que le fait de se soigner fait qu'on se sent déjà mieux. Vous voyez, c'est le truc un petit peu, voilà. Et en fait, ce qu'ils ont prouvé, c'est que dans les 225 études, la seule chose qu'amène l'homéopathie, c'est un effet placebo. C'est-à-dire un effet où, du fait qu'on a la sensation de se prendre soin de soi ou que quelqu'un prenne soin de soi, eh ben, en fait, on se sent mieux.
Oui, c'est pas le médicament qui fait que tu
non.
vas mieux.
Non, il n'y a pas d'effet au-delà de l'effet placebo.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, il y a des gens qui commencent à dire, oui, mais comment ils sont arrivés à cette conclusion, machin, machin. Ben, c'est pas compliqué, c'est que dans les études, en fait, on donnait des granules qui venaient des laboratoires qui font de l'homéopathie à une partie des gens malades et des granules qui contenaient que du sucre à une autre partie, et on obtenait exactement le même effet. Donc quand vous avez le même effet avec la granule de sucre et la granule soi-disant avec des trucs dedans, c'est qu'il y a comme un souci en fait, et que c'est simplement le fait de prendre soin des personnes qui fait que on a un effet. Voilà.
Ou que le sucre a de grandes capacités.
Ouais. Alors on va rappeler quand même. On va
faire... Sauf pour les diabétiques, on le rappelle.
Alors on va quand même rappeler que l'homéopathie, ça repose sur un principe d'ultra-dilution, c'est-à-dire que quand vous arrivez à un certain nombre de CH, c'est leur truc, voilà, vous arrivez à une goutte d'eau dans le volume de la Terre, vous voyez, donc, hein, on demandera à Georges la prochaine fois le volume de la Terre, je pense que c'est juste surréaliste, je crois qu'il y a des dilutions qui sont aussi d'une goutte d'eau dans le volume des mers, des océans présents, ouais. Vous voyez, donc voilà, donc on est vraiment dans l'ordre du que dalle, hein, pour être clair. Et ça repose sur la notion de mémoire de l'eau. C'est-à-dire que ça, c'est un grand truc qui, soi-disant, fonctionne. Alors, c'est un scientifique, hein, au 19e siècle, qui avait trouvé cette idée que l'eau avait une mémoire. C'est-à-dire que quand vous lui mettiez un truc dedans, puis après, vous rediluez, elle se parle.
Elle s'en souvient.
Les molécules se parlent entre elles. Alors, ouais. Elles disent, dis donc, tu sais, moi, j'ai eu ça en moi. Alors, il faut que tu reproduises le même effet et tout. C'est trop cool, la science, vu comme ça. sauf qu'en fait, bah, ça marche pas. Ouais. Alors, ça marche pas sur, c'est tout bête, hein. Si l'eau avait une mémoire, ben, sachant que vous buvez que de l'eau qui est recyclée, parce qu'en fait je vous rappelle quand même que l'eau que vous buvez vient généralement des stations d'épuration, donc elle a été purifiée et donc recyclée, je vous dis pas tout ce que vous devriez avoir et connaître comme
l'eau devrait être dégueulasse, quoi, en fait.
Comme expérience magnifique en buvant si l'eau avait une mémoire. Voilà. Donc, en fait, ça, on sait déjà que la mémoire de l'eau, c'est une connerie scientifique, ça ne repose sur rien, si ce n'est une croyance. Et en fait, le truc, c'est que les Australiens arrivent à la notion que l'homéopathie repose sur une croyance. C'est-à-dire que c'est un effet placebo. Alors, c'est pas mauvais, hein, d'avoir un effet placebo. Après tout, pourquoi pas? Ce que dit d'ailleurs le rapport. Pourquoi pas, après tout, voilà. Mais ce qu'ils disent les scientifiques, c'est qu'il vaudrait mieux changer nos sociétés. C'est-à-dire faire en sorte qu'on prenne un peu plus soin les uns des autres et qu'on fasse un peu attention les uns aux autres plutôt que de reposer tout sur la médication. Parce que voilà, comme ils disent, que ce soit l'allopathie, la phytothérapie ou l'homéopathie, en fait, ça a fait reposer sur la médication notre bonheur. Et ils disent, en fait, il y a toute une part de bonheur qui repose en réalité sur le fait de dire, bah viens, t'as mal, bah viens, je te prends dans mes bras, on fait un petit câlin, ça va mieux quand on a un peu mal, quand on se sent pas bien. C'est vrai que ça aide. Non, mais c'est pas une connerie, mais c'est un effet purement placebo. Et c'est bien, parce que c'est, bon, on va pas se plaindre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homéopathie, c'est remboursé en France. Et notamment, quand vous avez. C'est remboursé à 35% par la Sécurité sociale, et puis pour certaines personnes, à 100% quand vous avez une mutuelle qui rembourse l'homéopathie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour un effet placebo, vous avez des laboratoires, notamment le laboratoire Boiron, qui s'en met plein les poches pour vendre du sucre. Donc, alors, il y a Béguincet qui paraît. Il va leur faire un procès en disant, vu que ça marche aussi bien que le sucre, moi je veux ma part. Non, mais c'est grave, parce qu'il arrive un moment où en fait ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que scientifiquement, on n'arrive pas à prouver les effets de l'homéopathie. Alors il y a plein de trucs où les laboratoires Boiron, ils disent par exemple, oui mais ça marche sur l'animal, vous savez, on en arrive à soigner, machin. En réalité, il y a plein de vétérinaires qui disent non, on n'en sait que dalle. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment se soignent la plupart des animaux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment comment ils vont mieux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a par exemple le truc que j'ai lu qui m'a fait rire. Il y a le rhume du cheval. Je connaissais même pas la maladie.
Et c'est le rhume de la hanche.
Voilà, mais là il y a le rhume du cheval. Et en fait, le rhume du cheval, c'est une maladie qui a priori ressemble au rhume humain, mais qui est plus longue chez le cheval.
D'accord.
Voilà, il est un petit peu fatigué et tout. Et il y a plein de gens qui disent ça ne se soigne que par l'homéopathie. Et en fait, c'est vrai parce que les vétérinaires disent en fait c'est vrai dans un sens parce qu'on n'a pas de médicaments allopathiques qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé de molécules dans la nature qui soignaient le cheval. Mais il semblerait que quand on donne de l'homéopathie, ils aillent mieux. Et là, les vétérinaires disent non, c'est parce qu'en fait, au lieu de le laisser dans son box, vous allez le faire marcher, vous allez le faire courir, vous allez prendre soin de lui, vous allez lui laver les naseaux, et qu'en fait, ça va être positif pour le cheval. Et en fait, c'est pas le médicament que vous allez donner, c'est le soin que vous allez apporter en plus. Et au final, ça démontre que là aussi, ça repose sur une notion de, comme on dit maintenant, de care, c'est-à-dire prendre soin des autres, et qu'au final, ça repose sur rien d'autre. Et alors, les Australiens, du coup, ils veulent pas rembourser l'homéopathie, parce qu'ils disent, on va pas se mettre à rembourser le chocolat. Vous voyez, c'est pas grave, c'est très très bête, hein, mais il y a
alors que c'est démontré que le chocolat aussi fait du bien.
Eh ben oui, mais il fait du bien, comme l'homéopathie.
Oui,
c'est-à-dire que c'est un effet placebo induit, c'est-à-dire que on se sent mieux parce que c'est sucré, c'est doux, ça nous ramène à l'enfance. Et du coup, bah, quand on a un petit coup de déprime, un pot d'Agenda, c'est deux tablettes de chocolat et c'est bien plus efficace qu'un antidépresseur.
Dis-moi, t'es payé ça ou t'arrêtes pas d'idée.
Pardon, c'est vrai, je suis parti sur les mains. Oh, vous me pardonnerez.
C'est pas grave.
J'ai faim drôle. Peut-être. Voilà. Non mais voilà, tout ça pour dire que c'était intéressant parce que c'est encore une méta-étude. Il y en a déjà une qui avait été faite en 2004 et qu'à chaque fois, on retrouve les mêmes défenses qui sont en fait des défenses non scientifiques. La défense la plus courante, c'est « sur moi, ça marche ». Oui, bah, vous êtes 1 sur 7 milliards. Donc statistiquement parlant, ça vaut que dalle. Et surtout, en fait, essayez par exemple, au lieu de prendre une granule, prenez du sucre. Et regardez si ça marche aussi. Mais comme vous saurez que vous prenez du sucre, c'est là que du coup vous allez vous auto-persuader que ça marche pas, vous voyez, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Ouais. C'est l'inverse de l'effet placebo, j'ai perdu son nom. Donc voilà, c'est très intéressant à un moment donné de voir que quand on fait une méta-étude, ça ne marche pas. Alors je vais le dire, la phytothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les plantes, elle fonctionne parce qu'on est dans des dilutions zéro. C'est-à-dire vous prenez une plante, vous mangez la plante, donc voilà, vous l'infusez ou ce que vous voulez, donc vous ne diluez pas. Donc vous avez effectivement des molécules qui existent, qu'on peut mesurer scientifiquement dans des appareils qui peuvent vous dire, oui, il y a ça, ça, ça et ça. Donc là, il n'y a pas de problème, mais l'homéopathie, prenez des granules, mettez-les dans l'eau, essayez de voir ce qu'il y a et vous ne trouverez rien. Et le problème, il est là, en fait. Ah si, du sucre.
Je me souviens, c'était il y a quelques années, il y avait eu un reportage comme c'était qui est... Oh là là. Un reportage comme ça qui était passé à la télé. Ouh là là, la télé. Ah non, j'ai pas de télé, hein, faut pas regarder la télé. Ouh là, c'est mal. Et en fait, qui était sur l'homéopathie. Et c'était fait dans un magazine de médecine assez connu, etc. Et la conclusion était identique, quoi. C'est-à-dire que déjà ils expliquaient justement ces dilutions. Alors déjà quand tu vois justement ce système de dilution, en fait quand tu le comprends réellement, tu te dis juste non mais vous me prenez pour un abruti. Bah, là, en fait
on dilue des milliards de milliards
de
fois.
C'est ça, c'est-à-dire c'est comme si tu prenais ça veut rien dire, quoi. C'est incroyablement insignifiant. Et effectivement après on retombait sur oui mais quand même ça fait des choses. Ouais en fait mais on retombait sur les mêmes conclusions de prendre le sang, le temps, prendre soin, etc., etc. Et c'est mais c'est pareil, ce genre d'émission en fait finalement tu te rends compte plus personne n'en parle trop parce que bon il y a quand même du business derrière, non?
Mais il y a du business et moi c'est ça qui me dérange le plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'homéopathie c'est un business énorme qui rapporte des milliards et il faut pas dans le monde et qu'en fait on vend du sucre pour des milliards, quoi. Je veux dire et que en fait c'est ce que disait d'ailleurs un médecin dans l'article que j'ai lu, il disait mais quand quelqu'un par exemple a un gros rhume, vous voyez, et au lieu de lui donner 5 cc de machin donc, il dit, faites-lui une bonne tisane, mettez-lui un plaid sur les épaules, prenez le temps de discuter avec lui de son mal-être, comment ça va, tu te sens bien, moins bien, machin. Et il dit, vous avez le même effet pour pas un rond. C'est-à-dire que il dit, ça enrichira personne. Par contre, vous aurez pris soin de la personne qui est malade plutôt que de croire qu'en passant par la médication, qui n'est même pas une vraie médication, vous l'aidez.
Mais en plus, l'homéopathie, ça va avec tout un courant très... je ne saurais même pas comment dire, très
New Age un peu.
Ouais, ouais, très Pachamama, la terre-mère, elle va tous nous soigner. Ouais, enfin bon, la terre-mère, elle regorge aussi de matière poivre. Donc ça veut rien dire. Ouais. Mais que c'est dangereux, quoi. Enfin, le truc, c'est que derrière, je pense que c'est aussi un peu un courant qui est autour de il faut arrêter tous les vaccins, il faut.
Ouais, il y a ça, mais il y a aussi l'idée, en fait, c'est ce qu'ils disent dans la méta-étude, c'est qu'ils ont prouvé dans les 225 études qu'ils ont étudiées que ça avait surtout un effet négatif chez les gens qui refusaient de voir des médecins. C'est-à-dire qui vont se soigner à coup d'homéopathie et qui, en fait, vont avoir des vraies maladies profondes, comme on dit. C'est-à-dire, je parle pas d'un rhume, là, je parle par exemple au début de cancer, des choses comme ça, et qui, en fait, vont laisser passer le temps qui, en fait, aurait permis de diagnostiquer plus tôt et donc de les sauver. Mmh. Et ils disent, c'est le gros effet négatif de l'homéopathie généralisée, et c'est ça. Et que c'est grave. Alors, il y a un exemple typique, et c'est Steve Jobs. Ouais. Steve Jobs, en fait, croyait à l'homéopathie et à l'allopathie. Alors, l'allopathie aurait pu effectivement. L'allopathie.
C'est quoi l'allopathie?
L'allopathie, c'est les médicaments courants. C'est les médicaments issus de l'industrie. Okay. Donc, il croyait à l'allopathie, mais il disait, moi, j'ai pas envie d'en prendre parce qu'on n'a plus besoin de ça dans notre société. Vous savez, il était un petit peu pensé qu'on avait besoin que d'iPhone, lui. Et du coup, il a pris que des plantes au départ, puis ensuite de l'homéopathie pour soigner un cancer du pancréas. Bon, il est mort.
Ah ouais. Et le up.
Et le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui disent que s'il avait pris, si vraiment il s'était fait soigner très tôt, il aurait eu des chances de survivre.
Ouais.
Sauf qu'en fait, c'est ça, c'est ce genre de dérives-là qui sont dangereuses. Elles sont minoritaires, heureusement, mais elles sont dangereuses et il faut quand même les prendre en compte parce que c'est ce que disent ces scientifiques qui ont fait ces méta-études, c'est qu'en fait, on les sous-estime. C'est-à-dire qu'on part du principe que tout va bien, et notamment chez les enfants et les nourrissons. C'est-à-dire que, par exemple, ils disent qu'il y a une maladie très très commune qui est en train de se répandre, qui est la coqueluche, qui avait quasiment disparu, parce qu'en fait, les parents, il y a des parents qui ne vaccinent pas contre la coqueluche, bon, ça c'est un choix, faites ce que vous voulez, sauf que quand il y a les symptômes de la coqueluche, ils les confondent avec les symptômes du rhume. Et donc, ils donnent de l'homéopathie à leurs enfants, en disant ça va passer, sauf qu'en fait la coqueluche elle est réminiscente, c'est-à-dire qu'elle va disparaître un temps, elle va réapparaître plus tard, et ils disent ben, en fait là c'est une catastrophe, parce que quand elle réapparaît elle est beaucoup plus forte, et du coup là vous êtes bien obligé de soigner votre enfant autrement ou de le laisser vraiment morfler pendant un petit moment, parce que c'est très violent, ça fait tousser, ça fait saigner les poumons, enfin c'est pas très agréable, ça peut aller jusque là hein, c'est pas dans tous les cas, mais voilà, ils donnaient cet exemple là en disant c'est là-dessus qu'on a un réel problème, c'est notamment vis-à-vis des nourrissons et des enfants, et que là par contre il y a une responsabilité des parents dans le bien-être, parce que c'est, on revient au bien-être de l'enfant. Voilà. Et qu'il faut réfléchir quand même à ce qu'on fait, et puis pas non plus avoir toujours peur de la médecine et de la science. Voilà. Voilà, je voulais parler de ça, parce que je me suis dit, c'était marrant. Et puis on reparlera de l'homéopathie, je pense, un jour. Et Jean-Yves, tu as une petite bonne nouvelle qui n'a rien à voir, mais que tu voulais nous donner.
Oh là là, moi j'étais complètement ailleurs. Je croyais qu'on allait passer à la musique. Oula, réveille-toi.
Non, pas tout de suite.
Alors, je me réveille. Et je te bouscule, enfin bon, tout ça. Et pardon. Et en fait, ouais, bah, je voulais revenir sur, sur une bonne nouvelle, effectivement.
Bah oui.
Elles sont, on n'en parle pas toujours. C'est bien aussi quand même de se le rappeler qu'il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Et ben, c'est après les îles Fidji, Madagascar et le Suriname. Et ben, le 3 décembre 2015, la Mongolie est devenue le 105e pays à abolir la peine de mort après l'adoption par son parlement d'un nouveau code pénal excluant les exécutions.
C'est
alors ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Je vais vous lire un petit peu certains trucs. C'est quand même, c'est le ministre mongol de la justice a déclaré que en fait il y a pas de hausse significative des crimes en fait dans les pays où il y a pas de peine de mort.
C'est même l'inverse a priori. Nous.
Donc pourquoi en fait maintenir cette barbarie en fait, et il disait que selon lui la loi était attendue de longue date. Et donc voilà, et ça a été des débats qui ont été prolongés, pardon. Et en fait, le président mongol, alors je vais dire son nom, mais j'ai peur de l'écorcher pas mal, c'est Tsakhyajin Elbodjorch, à peu près, je suis désolé, et est en fait lui un abolitionniste, en fait, est un abolitionniste, ou encore un vilain mot, et a interrompu les exécutions en fait dès son arrivée au pouvoir en 2010 en usant de son autorité afin de commuer les peines.
Il avait fait sa campagne en ne le cachant pas, hein.
C'est-à-dire
qu'il avait toujours dit que s'il était élu, il mettrait un moratoire en place.
Bah voilà, c'est ce qu'il a fait en fait dès qu'il a été élu président, et que justement en cherchant autour de cette info, il y a encore une autre, il y a une soixantaine d'autres pays, donc on a les 105 qui sont totalement sans peine de mort, et il y en a encore une soixantaine d'autres en fait qui ont mis en place un moratoire ou n'ont exécuté personne durant les 10 dernières années. Ce qui, c'est cool.
Positif.
C'est positif, ouais. Quoi. Et donc, effectivement, aucune exécution, en fait, en Mongolie n'avait été appliquée, en fait, depuis 2008. Mais c'est toujours mieux, en fait, d'enlever tout ça, hein, totalement, pour que jamais personne puisse y revenir.
On va peut-être rappeler quand même l'autre facette qui n'est pas forcément la plus joyeuse, c'est qu'on exécute toujours en Chine, en Inde, aux États-Unis. Et que ce sont donc la majorité des, enfin une grosse partie
des êtres humains
qui sont aujourd'hui soumis au risque de peine de mort, c'est-à-dire du crime d'État,
effectivement.
Ça porte un nom. Donc voilà, et donc c'est pas pour noircir le tableau, mais c'est pour dire que ces pays-là se retrouvent de plus en plus isolés et qu'il est temps de justement de continuer à mettre la pression sur ces pays qui pratiquent la peine de mort.
Ben oui, voilà. Ça aussi, en fait, c'est pas un combat du passé.
Ah non, malheureusement.
C'est pas un combat du passé. Et ben voilà, donc c'était la bonne nouvelle du soir.
Ouais.
C'est pas mal, non?
C'est cool.
On va passer à la musique.
While the bodies burn, the children learn how the money's earned. with growing concern in the gallery. Three distinguished strangers who had found their way home. Ricochet and muscle flash, superfluous, luxurious commodities, communities, democracies, security. They don't want your money.
We're riding volunteers.
They don't think you're funny.
We're riding volunteers.
At all. At all. At all.
We're riding volunteers.
At all. Lindisfarne, Bannockburn, inadequacies, inaccuracies, heritage, more discoveries. While the fishermen sail the seas, chemicals, minerals, culture, war. Is that all this place is good for? Hundreds of years, unsettled scores, rivalry and bribery. Each man is there for the next man. That's the horror and the terror of war. And your overriding volunteer. Empty unit strife. Think about your wife. Another mission rehearsal. Say you know the procedure. Road to wash. NCOs. Incursion and extraction. Population, evacuees, contingency. They don't want your money.
Overriding volunteers.
They don't give your funny.
Overriding volunteers.
At all. At all. At all.
Overriding volunteers.
At all. Move the reels on a photo slide in a mountainside. Where the warlords hide, send them to the sky, send them to the seas, spread them all over the land. Slaves and gold and ivory, the artists cry as the good ones die. Charities and refugees, there's a monetary man with a momentary plan.
Vous êtes toujours dans la causerie et on vient d'écouter Finley Quay avec le titre Overriding Volunteer.
Eh ben c'était bien.
Ouais.
Et on est sur Radio Canu en plus.
Toujours.
Toujours.
En tout cas, jusque dans 5 minutes, quoi. Après, nous, on s'en va. Mais il y aura des bandes continues derrière parce que voilà.
C'est réparé ?
C'est tout bon.
Parce qu'on avait prévenu les gens avant et
oui,
tout.
Non, mais tout va bien. Vous inquiétez pas.
C'est ça les radios associatives.
Bah oui. Hein.
Et d'ailleurs, On a une super bonne nouvelle.
Oh bah oui, Radio Canu est propriétaire de ses locaux depuis...
Le 23 décembre.
Ouais, c'est ça, même pas une semaine en fait.
Ça a été un cadeau de Noël.
Si, ça, c'est un cadeau.
Non, je déconne.
Non. Et en fait, on va pas forcément vous tanner pendant 10 heures et on va pas forcément non plus vous tanner toutes les semaines pour l'appel à dons, mais... On va plus le faire en tout cas.
Moins le faire. Parce que vous pourrez continuer à soutenir la radio, si vous voulez.
Mais en tout cas, c'était aussi pour dire merci à toutes les tous les auditeurs et toutes les auditrices pour leurs dons, pour leurs mots, pour leurs messages de soutien, pour tout.
Ouais.
Enfin, c'est juste énorme, vraiment. Enfin.
Pour quand même recadrer, on pariait, nous, d'avoir 20 000 euros de dons au départ, un petit peu. Enfin, c'était un peu ce qu'on affichait. On visait 25 000 euros, pardon, de 50 000 euros sur le site au départ. Et on a largement dépassé ça grâce à vous.
Ouais.
Et très largement parce qu'on est plus de 50 000 euros, je crois que presque 55 000 euros de dons. Donc merci parce que vraiment, ça, je pense que personne n'y croyait. Enfin, parce que voilà, mais c'est la preuve que vous tenez à Radio Canu autant que ceux qui la font. Et ça fait vraiment très plaisir, et ceux et celles d'ailleurs qui la font, et du coup ça va permettre qu'on emprunte que sur 4 ans, donc comme on vous le disait, que ça permettra d'éviter que le système bancaire on l'enrichisse et on l'engraisse, c'était vrai.
oui
donc, on va juste emprunter sur 4 années, et dans 4 ans définitivement ça appartiendra plus à la banque, ça appartiendra réellement, totalement aux futures personnes qui seront à la radio, et ceux qui sont déjà, peut-être qui seront encore là dans 4 ans, et aux nouveaux qui arriveront. Donc c'est vraiment très intéressant de voir que c'est un bien commun, donc il va falloir en prendre soin, parce que c'est un vrai bien commun, Radio Canu, c'est la voix des sans-voix, comme on dit depuis la création de la radio, et du coup il va falloir en prendre soin, donc on espère que vous aurez envie qu'on soit encore là dans 10, 15, 20, 30, 50, 100 ans, allez savoir.
Waouh.
Ouais, c'est loin, je serais mort.
Ouais, c'est loin. Ouais, moi aussi. Enfin, j'ai pas prévu, en tout cas, de mourir dans 100 ans.
Après?
Non, avant. Non, bien avant.
Mais voilà, mais un grand merci, parce que ça fait vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Enfin, on est tous canus très touchés.
Ouais.
Voilà.
Et
on n'a pas grand chose à vous annoncer parce que.
Ouais, c'est ça. On n'a pas de news.
A priori,
rendez-vous militant.
A priori, c'est la trêve des confiseurs aussi.
C'est ça.
Dans les trucs militants.
C'est ça. Donc, je sais pas. Est-ce que t'as une bagnole à vendre?
J'ai pas de voiture à vendre du tout.
Bon, écoute, alors, 22h.
Ce qu'on va dire quand même, c'est qu'on revient le 3.
Ah ben, on n'a pas dit qu'on revenait pas, c'est quoi ces conneries?
Non, mais voilà, mais qu'on sera là la semaine prochaine.
Ah ben, on sera là la semaine prochaine.
Voilà.
En forme pas sûre, mais on essaiera en tout cas, et on ne sait pas encore avec qui sera là dans l'équipe,
mais il y aura du monde.
On espère le plus nombreux et les plus nombreuses.
Et que si vous voulez venir nous faire un petit coucou, vous savez que vous pouvez passer à la radio, nous parler sans problème. Plutôt avant, donc venez vers 21h30, en général, on est là.
Voilà. Et puis merci aussi aux gens qui laissent des commentaires aussi sur le blog, même si certains sont puants. en tout cas un.
Comme t'es méchant, t'étais énervé ce soir. Hein.
Non, je suis pas énervé. C'est juste que voilà quoi. Et puis c'est cool et que.
C'est la preuve qu'on ne censure personne.
Ouais, effectivement. Et je voulais juste aussi dire, on est un peu content à Radio Canu, surtout à la causerie. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, le témoignage de CR que vous avez pu entendre, c'était le 13 décembre, en fait, il a été diffusé aujourd'hui. Alors, c'est passé, mais en tout cas, on est bien content que ça se diffuse ailleurs. Mmh. Et il a été diffusé sur Radio Libertaire à Paris et que là aussi, c'est cool. C'est des parcours individuels qui se diffusent et qui se diffusent et qui se diffusent.
Et c'est chouette.
Carrément. Parce qu'on est un ensemble d'individus, je crois. Et donc voilà. Bon, je crois qu'il est l'heure pour nous de rendre l'antenne.
Et on va se quitter avec quoi, Clara?
On se quitte avec le groupe R et le titre Alpha Beta Gaga.
Ah, c'était chouette.
Et on se dit quoi?
Bonne semaine, éclatez-vous bien pour fêter la nouvelle année, parce que ça, c'est païen, donc vous pouvez y aller à fond. Donc voilà. Et c'est même pas païen, d'ailleurs, c'est
juste la fin d'une année
la fin d'une année.
Débute à l'autre, quoi, en fait.
Faites-vous plein de bisous, des câlins, faites-vous du bien, mangez, buvez, fumez, faites ce que vous avez envie de faire, mais surtout, revenez le 3 pour nous écouter.
Oh, écoute-le, lui. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne nuit et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.